Des informations à Jacques-Yves Molima.
Le CNDP a déclaré un cessez-le-feu unilatéral. C'est pour éviter de paniquer la population de Goma, dit qu'ils sont porte-parole. Un cessez-le-feu qui doit être imminent selon le Conseil de sécurité réuni hier à New York sur la situation de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais de son côté dit ne pas être saisi officiellement mais reste ouvert au dialogue. Une nouvelle vague de déplacés composée d'une dizaine de familles est arrivée hier à Dungu, district du Haut-Touélé, en province orientale. Elles ont quitté Kiliwa depuis l'attaque de LRA du 17 septembre dernier. Des fonds destinés à la paye de la prime de risque des infirmiers et des médecins volatilisés à l'inspection provinciale de la santé en Mbandaka. C'est 6 millions de francs congolais. Et voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Des combats au Nord Kivu, un cessez-le-feu unilatéral décrété par le CNDP de Laurent Kunda hier soir, selon son porte-parole, c'est pour éviter de paniquer la population de Goma. Écoutez, Bertrand Bissimwa, il est interrogé par Jacques Lutumba Kamanga.
Le CNDP vient de proclamer un cessez-le-feu parce que le CNDP a estimé qu'il ne fallait pas donner l'occasion aux membres de l'armée et donc des FARDC de pouvoir opérer des exactions vis-à-vis de la population.
Mais vous dites quelque part dans votre communiqué que vous ne voulez pas faire paniquer la population comme vous le faites dans les villes que vous avez déjà libérées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez déjà libéré Goma ou pas?
Nous avons déjà libéré plusieurs villes, notamment Rutshuru, notamment Kiwanja et d'autres cités. Et nous aurions souhaité également le faire à Goma, si jamais nous entrions dans la ville de Goma, mais nous avions vu que si nous entrons dans la ville de Goma, présentement, et les FARDC peuvent en profiter pour tuer, pour commettre des exactions sur la population civile.
Réaction du gouvernement congolais, son porte-parole déclare qu'il n'est pas encore informé officiellement de ce cessez-le-feu unilatéral, mais il a été toujours ouvert au dialogue. Lambert Mende l'a dit au téléphone d'Askin Zigbia Tayoro.
Étant donné que cette décision du CNDP ne nous a pas encore été communiquée officiellement, le gouvernement ne peut pas annoncer une position. Quoi qu'il en soit, notre attitude face au CNDP, comme face à tous les autres groupes armés, a toujours été une attitude d'ouverture. Le gouvernement a créé un processus à Goma pour appeler tous nos compatriotes au dialogue. Nous sommes disposés à parler avec tous nos compatriotes, y compris ceux du CNDP, mais dans des conditions qui ont été fixées de commun accord. Dans ce processus, Amani, qui a le soutien du peuple congolais et soutien de l'ensemble de la communauté internationale.
À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché une fois de plus hier mercredi sur la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Des consultations à huis clos et une déclaration présidentielle à la presse. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, non seulement ils condamnent à l'unanimité les violences perpétrées par le CNDP à Goma et dans les territoires de Rutshuru, mais aussi parlent du cessez-le-feu déclaré unilatéralement par le CNDP. Maha Fayek de la radio de l'ONU à New York.
Le Conseil accueille favorablement l'annonce de cessez-le-feu unilatéral de Laurent Kunda, mais son entrée en vigueur est imminente pour les membres du Conseil. Le sort des populations civiles et les dizaines de milliers d'entre elles jetées sur les routes est une grande source de préoccupation pour les membres du Conseil qui somment tous les belligérants, tous les groupes armés à un retour à l'esprit des processus de Goma et de Nairobi. Une fois de plus, le Conseil renouvelle son plein soutien à la MONUC et à son action sur le terrain, notamment après l'abandon de Goma par les FARDC. Alain Leroy, le patron du maintien de la paix, s'est encore exprimé mercredi soir devant la presse et a confirmé que les troupes de la MONUC déployées dans d'autres régions du pays devront rejoindre Goma dans les 3 à 7 jours qui viennent en renfort aux 800 hommes sur place. Pour ce qui est de la demande de renfort en provenance de l'extérieur de la RDC, même si Alain Leroy confirme que cela, et surtout en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, fera l'objet de discussions proches et accélérées au Conseil, il faudra des semaines, dit-il, surtout des mois, pour faire germer ce projet. Enfin, sur le front politique, les projecteurs sont braqués sur l'issue des discussions des deux envoyés spéciaux de Ban Ki-moon avec les présidents Kagame et Kabila. Depuis la radio de l'ONU à New York, Maha Fayek pour Radio Okapi.
Sur le terrain au Nord Kivu, plus précisément à Goma, l'heure est au bilan. 9 civils tués, 3 blessés, 3 filles violées et plusieurs habitations, boutiques, magasins et restaurants pillés par des hommes armés. Bilan de l'insécurité la nuit dernière dans la ville de Goma. Mais ce matin, la ville s'est réveillée timidement après une nuit complètement agitée. Aucune activité n'est exercée jusque-là, mais des attroupements des habitants de Goma sont observés ça et là sur l'ensemble de la ville. Le point de la situation avec Richard Junior Kamunga.
Toutes les victimes ont été tuées pendant qu'elles se trouvaient dans leurs habitations respectives. D'après les sources officielles qui ont fourni cette information, l'insécurité la nuit dernière dans la ville de Goma a été causée par les militaires incontrôlés. Ils exigeaient soit l'argent, des bijoux et d'autres objets de valeur, soit ils demandaient de la bière. D'après la même source, aucun quartier de la ville de Goma n'a échappé à cette insécurité. La police nationale congolaise reconnaît que ces éléments ont eu des difficultés à maîtriser la situation. Pour les autorités de la province, il est difficile d'identifier les militaires incontrôlés, car l'unité des FRDC chargée de sécuriser la ville de Goma a été renforcée par plusieurs d'autres militaires, indique la même source. Entre-temps, aucun commerce, aucune école n'a ouvert ce jeudi matin dans la ville de Goma.
Et puis, suite aux affrontements dans le Nord Kivu, des centaines de milliers de personnes se sont déplacées. Selon le chef de mission adjoint de MSF Belgique, joint à partir de Goma, ces personnes regroupées dans les environs de Goma sont dans une situation déplorable. Olivier Chenebam, chef de mission adjoint de MSF Belgique, parle de la situation de ces déplacés avec René Capitain.
Je pense que nous pouvons parler effectivement d'un désastre humanitaire qui n'est malheureusement pas récent, mais aggravé par les récents combats qui ont redémarré depuis le 28 août. L'ensemble de la population du Nord Kivu est affectée par cette guerre. Bien évidemment que cela entraîne pour certaines un déplacement de près de 30 à 40 000 personnes de Kibumba à Kibati, personnes qui sont déplacées dans des conditions absolument précaires, qui ont dû laisser leurs effets derrière elles et qui se retrouvent dans des conditions sanitaires et de vie extrêmement fragiles. Ces personnes arrivent dans un certain état de faiblesse. Ils n'ont ni protection, ni nourriture.
À l'Assemblée nationale à Kinshasa, la situation dans l'est du pays était l'unique point débattu à la plénière de ce mercredi. Elle a adopté la convocation ce vendredi du nouveau gouvernement en vue de son investiture pour éviter les vides juridiques afin que ce gouvernement présente son plan rapide de sortie des crises dans l'est du pays. L'Assemblée nationale a formulé des recommandations au président de la République et à la communauté internationale. Marie-Chantal Lumba.
Une plénière inhabituelle au Palais du Peuple. Presque tous les députés avaient l'oreille collée à leur téléphone à l'affût des nouvelles du Nord Kivu. Les informations sur l'avancée du CNDP et la situation humanitaire fusaient de partout. Après débat, l'Assemblée nationale a recommandé au gouvernement la consolidation de l'esprit patriotique et la réorganisation des forces armées congolaises en faisant recours aux ex-phases délaissées. L'Assemblée nationale met également un accent sur la redynamisation de la diplomatie. Vital Kamerhe, président.
Dans le cadre du programme Amani, ou dans un cadre à définir, de recevoir les cahiers des charges, le CNDP. Il y a le volet diplomatique. Il faut les réactiver. Nous devons prendre les taureaux par les cornes.
À l'endroit de l'ONU, la Chambre basse du Parlement souhaite la mise sur pied d'une force Artemis II pour consolider les acquis des élections. Pour ce qui concerne l'Union européenne, l'Union africaine et la SADC, l'Assemblée les a exhortés de se pencher et de prendre à cœur la situation humanitaire et sécuritaire dans l'Est. Les députés nationaux préconisent également une diplomatie parlementaire à la rencontre du CNDP, des parlementaires du Rwanda et des organisations de la sous-région.
Du côté du gouvernement provinciale de Kinshasa, Madame la ministre provinciale en charge de la communication appelle la population de Kinshasa au calme. Madame Olenga annonce par ailleurs qu'aucune marche n'est autorisée sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. La bataille diplomatique internationale est activée pour amener la paix dans l'est de la RDC. Des appels au respect des accords lancés aux parties belligérantes, des émissaires envoyés. En tout cas, la communauté internationale s'active, Innocent Olenga.
Certainement, la communauté internationale est en action. Ce jeudi, l'émissaire du gouvernement américain arrive à Kinshasa. Jindai Fraser, secrétaire adjointe américaine aux affaires africaines, vient s'entretenir avec les autorités congolaises. Et notre émissaire, c'est celui de l'Union européenne qui, lui, est arrivé hier soir. Louis Michel est en visite d'urgence destinée à évaluer les besoins humanitaires provoqués par les combats. Hier mercredi, le premier ministre britannique a appelé les présidents rwandais et congolais à se rencontrer en urgence. Ban Ki-moon n'est pas resté indifférent différents. Le secrétaire général de l'ONU a annoncé hier avoir envoyé deux émissaires, l'un en RDC et l'autre au Rwanda, pour exhorter les deux chefs d'État à se réconcilier et calmer la situation à leurs frontières. De Brazzaville, 9 chefs d'État africains ainsi que les premiers ministres tchadiens ont appelé aussi hier dans une déclaration commune à une cessation des hostilités dans l'est de la RDC. La France, pour sa part, a suggéré à l'Union européenne l'envoi rapide des militaires européens au Nord Kivu, une proposition qui n'a pas eu l'assentiment des autres nations européennes qui estiment que pour l'instant la priorité est aux efforts diplomatiques pour régler la crise dans l'est de la RDC.
Une nouvelle vague de déplacés est arrivée hier mardi à Dungu Centre, en district du Haut-Touélé. Selon le président de la société civile du territoire de Dungu, il s'agit de plusieurs dizaines de familles venues de la localité de Kiliwa, à environ 50 km de Dungu Centre. Information confirmée par le bureau de Osha à Dungu. D'après la société civile locale, ces familles ont fui suite à l'attaque le 17 septembre dernier de leur village par les rebelles de la LRA. Le point avec Delvin Waïsala.
Selon les témoignages des déplacés recueillis par la société civile de Dungu, les rebelles de Elera avaient incendié des maisons lors de l'attaque du village de Kiliwa, obligeant ainsi ses habitants à trouver refuge dans la forêt. Les sources militaires en Dungu indiquent qu'à leur sortie de la forêt, ces familles ont été repérées par les FARDC à patrouiller à Kilima, localité située à 25 km de Kiliwa. Selon les conseils juridiques de la commission des saisons justice et paix en territoire de Dungu, ces personnes déplacées sont actuellement dans des familles d'accueil au quartier Bamukandi. Contacté, le bureau Otia à Dungu confirme cette nouvelle vague de déplacés dans ce territoire, mais il ne précise cependant pas leur nombre car, ajoute-t-il, l'identification de ces personnes se poursuit encore. Notez que ces nouveaux déplacés viennent s'ajouter aux milliers d'autres qui ont trouvé refuge à Dungu Centre. Bounia, Delva Aïssala, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
La ronde en province Mireille Bukassa, direction Bas-Congo, récrudescence des cas de viol dans la ville de Boma.
Ce constat est fait par l'ONG Société Civile pour les Droits de l'Homme après la visite dans différents cachots et prisons de cette ville portuaire. Selon Barthélémy Boubou, directeur de programme de cette ONG de Droits de l'Homme, en l'espace de 3 mois, ils ont dénombré plus de 100 cas de viol. Ils préconisent la vulgarisation de la loi sur les violences sexuelles.
Dans la province de l'Équateur, à Mbandaka, 6 millions de francs congolais se sont volatilisés à l'inspection provinciale de la santé, Mireille.
Ces fonds étaient destinés à la paye de la prime de risque des infirmiers et des médecins. Ce vol qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dernier vient après de nombreux cas de détournement enregistrés au secteur de la santé, ce qui suscite des réactions de toutes parts. La police a ouvert une enquête. L'Assemblée provinciale de l'Équateur, de son côté, a diligenté une mission d'enquête sur ce vol, Dominique Colombi.
Selon le médecin inspecteur provincial de l'Équateur, Jacques Mokangé, c'est le comptable d'État affecté à l'inspection de la santé qui a donné l'alerte lundi matin en ouvrant son bureau. Des voleurs qui ont emporté les 6 millions de francs congolais auraient accédé à son bureau par un trou ouvert à la toiture. Avant même l'aboutissement de l'enquête ouverte par la police, les syndicalistes et les professionnels de la santé crient déjà à une magouille montée de toutes pièces, selon leurs propres termes. Et ils craignent, ajoute-t-il, l'impunité des coupables. Détournement et vol de fonds destinés à la paix des fonctionnaires sont devenus monnaie courante dans la province, surtout dans les secteurs de la santé. À Boyindé, Lisala et Mbandaka, la situation est la même. Et les présumés auteurs de ces actes, aussitôt mis à la disposition de la justice, sont relâchés. Ces vols, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, provoquent des réactions de toutes parts. L'Agence nationale de renseignement s'active sur ces dossiers. L'Assemblée provinciale de l'Équateur, pour sa part, a diligenté une mission d'enquête. Selon l'honorable Jacques Mbelewa, président intérimaire de l'Assemblée, son organe compte peser de tout son poids par voie de motion de censure et de défiance pour obtenir des sanctions exemplaires contre les auteurs de ces vols et détournements à répétition. Mbandaka, Dominique Kiwolombi Mongapangé, Radio Okapi.
En dehors de nos frontières, l'élection présidentielle en Zambie, organisée à la suite du décès du chef de l'État Levi Mwanawasa, a débuté ce jeudi à 6h, locale, 4h GMT, dans tous les pays où l'armée et la police ont été placés en état d'alerte pour empêcher toute violence. Après le scrutin, les autorités craignent des troubles à la fermeture des bureaux de vote après les menaces du candidat et chef de l'opposition, Michael Sata, de ne pas reconnaître des résultats truqués en faveur du président par intérim Rupia Banda. Bonsoir enfin. La finale de la Coupe de la Fédération de volleyball du Congo sera 100% quinoise dans les deux versions. Cette cinquième édition se jouera cet après-midi au Stadium de Martyrs de Kinshasa. Chez les messieurs, elle l'opposera Force Terrestre à Tonnerre. Tonnerre a obtenu son ticket pour la demi-finale hier après avoir battu BCC par 3-7-0, alors que Force Terrestre s'est qualifiée sans jouer. Elle a remporté le match contre Police Nationale Congolaise, le tenant du titre, par forfait. Les policiers ont refusé de jouer pour modification du calendrier. Chez les dames, la finale opposera The Club à Canon. Les deux équipes ont battu leurs adversaires respectivement, Essauté et DSMP, par 3-7-0. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au capi.